Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Les bonnes pratiques SEO, mythe ou réalité? »
Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actifs numériques avec Nicolas Roy.
La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes qui l'entourent. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme.
Dernièrement, je suis passé en entrevue avec une personne et elle m'a posé une question vraiment intéressante. Cette personne savait que j'avais déjà écrit un livre sur la préparation physique d'athlète dans une autre vie professionnelle et elle m'a donc posé une excellente question. Elle m'a demandé si j'avais comme projet d'écrire un livre sur le SEO. C'est une question à laquelle j'avais déjà un peu réfléchi, mais c'était la première fois qu'on me la posait et donc que je devais y répondre à voix haute. Quand on se pose une question, ça nous pousse à réfléchir, en accélérer, pour donner une réponse, mais ça nous pousse aussi à réfléchir en différé pour faire un bilan à savoir si la réponse qu'on a donnée faisait du sens. Dans cet épisode, je vais vous donner ma réponse, mais cet aspect est probablement le moins important. Ce que je considère le plus important est la réflexion que j'ai eue pour donner cette réponse et les anecdotes dont j'ai vécu qui m'ont poussé à cette réflexion. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au SEOespion.com. Donc, dernièrement, je me suis fait poser la question à savoir si j'avais comme projet d'écrire un livre portant sur le SEO. La personne qui m'a posé cette question l'a fait parce qu'elle est elle-même auteure et parce qu'elle savait que j'avais déjà écrit un livre dans le domaine de la préparation physique athlétique en 2015. Ma réponse a été que non, je prévois pas écrire de livre portant sur le SEO. Mais à mon avis, ce qui est le plus important est ma réflexion à savoir pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je n'écrirais pas de livre sur le SEO? Hormis le fait que je suis pas certain que ce soit un sujet pour écrire un best-seller, c'est pas la raison principale qui fait en sorte que je sois pas vraiment attiré par un tel projet. En fait, la principale raison pourquoi un tel projet ne m'emballe pas tant est la volatilité et l'évolution du SEO qui sont tellement intenses qu'un livre peut facilement avoir de l'information défraîchie. Évidemment, un livre sur le SEO technique qui se concentrerait sur les bonnes pratiques de la structure d'un site web ou sur l'automatisation de tâches en SEO avec du code pourrait être intéressant. Mais encore là, il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête. Le livre sur l'automatisation des tâches pour le SEO serait très intéressant, mais il s'adresserait à qui? À des gens du SEO? À des scientifiques de données? À des chefs marketing? À des entrepreneurs? Bref, c'est pas évident. Une des premières questions est de savoir qu'est-ce qu'on considère comme une bonne pratique SEO. Ça semble être une question facile à répondre pour un professionnel du SEO, mais c'est pas si évident que ça. J'ai une anecdote à ce sujet. Dernièrement, j'ai dû travailler avec un programmeur sur un projet de site web qui a été codé de A à Z parce que c'est un site web fait sur mesure. Le SEO du site web avait de gros problèmes techniques. J'ai donc commencé à travailler avec le programmeur qui a voulu prendre de l'initiative. Il a donc utilisé un logiciel qui lui pointait des problèmes techniques avec le site web. J'ai deux exemples de facteurs dont son logiciel faisait mention. Un de ces facteurs était que la balise de titre ou le title tag de certaines pages avait plus de 60 caractères. Cette bonne pratique vient du fait que dans ses résultats de recherche, Google va montrer les balises de titre au complet si elles ont entre 50 et 60 caractères. La règle a donc été inventée que d'avoir plus de 60 caractères dans une balise de titre est une mauvaise pratique parce que les gens ne pourront pas la voir, parce que Google ne montrera pas tout dans ses résultats de recherche. C'est une règle logique. Par contre, si on espionne les leaders des résultats de recherche et qu'on regarde ce qu'ils font, est-ce qu'ils respectent cette règle? Pour le savoir, il faut espionner nos compétiteurs et avoir une analyse quantitative comparative avec corrélation en se comparant aux leaders qui ressortent pour la requête tapée dans la barre de recherche. Quand on analyse les éléments contenus dans la balise de titre des leaders, on se rend compte que ça prend plus que 60 caractères pour pouvoir inclure tout ce stock. Mais qui oserait briser la règle des 60 caractères? Est-ce que Google lirait au-delà des 60 caractères présentés dans la balise de titre? Si c'est le cas, briser cette règle serait un facteur de classification positif pour ses résultats de recherche. L'autre exemple qui me venait en tête est que le logiciel de ce programmeur disait que c'était mal d'avoir un H1 qui est le gros titre du contenu et la balise de titre identique. Pourtant, Quand on fait une analyse quantitative comparative avec corrélation, on se rend compte que d'avoir un H1 et une balise de titres identiques est souvent un élément fort et donc un possible facteur de classification parce qu'une corrélation et un lien de causalité sont différents. Est-ce que les leaders font tous mal en évitant de répéter des bonnes pratiques? Peut-être, et je crois que ces bonnes pratiques peuvent varier et elles sont du cas par cas. C'est la raison pour laquelle faire des généralisations est quelque chose dont j'essaie de m'éloigner en SEO. Évidemment, il y a des bonnes pratiques techniques comme éviter le contenu dupliqué, avoir un seul H1 par contenu, avoir des URL stables, et ces aspects changent moins. Je crois aussi qu'il y a déjà beaucoup de livres sur ce sujet. Au niveau de la volatilité, Google apporte constamment des changements dans ses algorithmes, comme le Core Update qui est en cours ou qui vient de se terminer, parce que même le fait de savoir si ce changement d'algorithme est terminé ou s'il est encore en cours ne fait pas l'unanimité dans le monde du SEO. Si on parle de l'évolution du SEO, ça change tellement que d'écrire un livre donne le vertige. Avec l'avènement de ChatGPT en novembre dernier, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. D'ailleurs, une personne m'a demandé cette semaine si ChatGPT allait tuer le SEO. La réponse est non, mais ça modifie la manière de faire du SEO. L'intelligence artificielle peut aider ou nuire au SEO. Elle va aider en multipliant la productivité si le prompting est bon. Le prompting, c'est de bien poser les questions ou les commandes à l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, Google n'a pas le choix de s'adapter au niveau de ses algorithmes. C'est la raison pour laquelle Google a changé le EAT pour le EEAT. Le EAT était pour Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, alors que le EEAT est pour Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness. Comme le disait Kim O'Clair dans l'épisode précédent, tout le monde peut se faire un site web crédible avec du contenu intéressant avec ChatGPT. Google cherche donc de plus en plus à voir si l'entreprise est légitime et crédible. Comment elle fait ça? En regardant à l'extérieur du site web, soit dans les médias traditionnels ou sur les médias sociaux. Cette nouvelle réalité du SEO va énormément changer les procédures et c'est un sujet que je pourrais couvrir dans un autre épisode. Mais l'aspect experience ou expérience pour aller à l'extérieur du site web de l'entreprise devient énormément important. Donc oui, le travail de SEO technique est un travail où la structure du site web est hyper importante et cet aspect du SEO est susceptible d'avoir un livre où l'information va bien vieillir dans le temps. Le SEO technique est un peu plus standardisé que le reste du SEO, mais encore là, c'est loin de faire l'unanimité aussi. Pour le reste des facettes du SEO, ça évolue tellement vite que de créer un livre est une entreprise hasardeuse. Je préfère garder la formule du podcast. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.